J'ai le plaisir de vous présenter Charles Grenier, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc Charles a fait sa thèse à l'École normale de Lyon avec Pascal De Giovanni, mais également en forte collaboration avec le groupe de physique mésoscopique de l'École normale, n'est-ce pas ? Et après sa thèse, il est venu en postdoc dans notre équipe à l'École polytechnique. Et là, on a démarré un certain nombre de travaux sur les atomes froids. Donc, c'est quelqu'un qui incarne en une seule personne la proximité croissante de la physique mésoscopique avec la physique des atomes froids. Et un de ses travaux dans le cadre de ce postdoc a été ces questions d'effet thermoélectrique dans ces dispositifs dont vient de nous parler Jean-Philippe. Et Charles est maintenant à l'ETH de Zurich dans une configuration qui est une superposition linéaire entre l'équipe de Tillmann Esslinger et celle d'Atta Cimamoglu.
Merci. Merci beaucoup pour l'introduction et merci beaucoup aussi pour l'invitation à vous présenter ce travail qui est le produit d'une collaboration entre une sous-collaboration de théoriciens plus ou moins diffusés entre Genève, Bonn et Paris, et donc le groupe expérimental de Tillmann à l'ETH à Zurich. Donc ce que je vais présenter maintenant, c'est le pendant théorique des résultats sur les effets thermoélectriques que vient de vous présenter Jean-Philippe. Ça a beau être une série de lectures sur de cours sur la thermoélectricité, je me permets de rappeler l'effet fondamental dans ce cadre-là, qui est l'effet Seebeck, qui va avoir lieu quand vous chauffez une des extrémités, donc dans ce genre de configuration, donc vous chauffez une des extrémités d'un matériau qui a des propriétés thermoélectriques. En même temps que ce chauffage, on mesure la différence de potentiel entre les deux extrémités, donc à l'aide d'un voltmètre. Et la tension qui sera mesurée, elle est proportionnelle à la différence de température que vous avez imposée, et elle est reliée donc de cette manière-là, donc delta V égale alpha delta T, alpha étant le coefficient Seebeck. Inversement, existe aussi l'effet inverse, donc qui est l'effet Peltier, qui va avoir lieu si dans le même matériau on impose un courant électrique. Donc en retour, ce courant électrique va générer un courant de chaleur qui est aussi proportionnel au courant électrique qu'on a imposé. Le coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient Peltier qui se trouve être relié de manière assez simple au coefficient Seebeck. Deux remarques avant d'embrayer sur la suite. La première, c'est l'interprétation du coefficient Seebeck. J'anticipe un petit peu sur les équations que je présenterai tout à l'heure, mais le courant d'entropie peut être écrit de cette manière-là, donc il a deux contributions. La première, c'est une contribution conductive, donc qui vient des propriétés de conduction thermique, avec lambda ici, c'est la conductivité thermique. Et il y a une autre contribution qui vient des effets thermoélectriques, donc qui est simplement le coefficient Seebeck fois le courant de particules, donc ce qui donne l'interprétation du coefficient Seebeck ici comme la quantité d'entropie qui est portée par chacune des particules qui passent donc dans la barre de matériaux ici. Et l'autre remarque, c'est que les effets que je viens de décrire assez rapidement sont des effets stationnaires. Donc toutes les quantités, donc en particulier le biais de température ici, la différence de potentiel et les courants électriques et courants de chaleur sont des quantités permanentes. Donc elles ne dépendent pas du temps, donc contrairement à ce qui va se passer dans le cœur de l'exposé. La recherche de matériaux qui ont de bonnes propriétés thermoélectriques, c'est un sujet d'intérêt récurrent donc en physique des matériaux, notamment dans l'idée de réaliser de bons modules Peltier, donc des matériaux qui ont de bonnes propriétés pour faire du refroidissement Peltier. Et ce genre de question peut avoir un intérêt donc, dans la recherche de comment récupérer de l'énergie perdue. Dans ce cadre-là, l'idée générale, c'est d'essayer d'améliorer la quantité typique à laquelle on s'intéresse pour quantifier, disons, l'importance des effets thermoélectriques, qui est la figure de mérite. Donc ici, figure de mérite sans dimension, donc qui mesure l'importance des processus de transport hors diagonaux par rapport aux processus conductifs normaux. Donc cette quantité s'exprime comme le produit de la conductivité électrique fois le carré du Seebeck divisé par la conductivité thermique. Et optimiser cette quantité, ça pose des questions aussi d'un point de vue fondamental, puisqu'il faut se poser des questions sur des propriétés de transport à haute température, enfin, ou en tout cas à température finie. Et aussi, il faut se préoccuper des phonons, donc, notamment puisque ici participe à cette quantité la conductivité thermique, dans laquelle les phonons jouent un rôle de plus en plus important à mesure que la température augmente. Donc il faut comprendre l'importance du transport de chaleur par les phonons, et entre autres donc le couplage entre électrons et phonons. Pour terminer sur ce cycle de lecture de cours, encore une fois, pardon, sur la thermoélectricité des petits systèmes, il est de bon ton de mentionner que les effets thermoélectriques ont été étudiés depuis un certain nombre d'années dans les systèmes mésoscopiques. Ici, l'idée, c'est d'essayer d'extraire de l'énergie d'un environnement fluctuant. Tout ça dans l'idée d'optimiser la conversion d'énergie vers en électricité, donc en ayant à l'esprit des processus de refroidissement, en fait. Et donc, je présente ici des résultats assez récents, donc tant théoriques qu'expérimentaux, dans cet ordre d'idées. Donc, on peut mentionner par exemple la création de machines thermiques basées sur les propriétés de conduction de points quantiques. Donc, c'est une proposition de Jordan Butiker et co-auteur. On peut mentionner aussi les études des effets non linéaires dans le transport thermoélectrique. Donc, c'est des travaux de Rob Whitney, donc entre autres celui-ci, mais il y en a d'autres de cette année et des années précédentes. Et du point de vue expérimental, les effets thermoélectriques vont être intéressants pour leur perspective en termes de refroidissement. Donc, dans le cadre de la physique méso, l'idée, c'est d'essayer de refroidir le plus possible les gaz d'électrons. Donc ici, on a un résultat sur la création d'un réfrigérateur qui essaye en tout cas d'atteindre la limite quantique du refroidissement, et la réalisation d'une sorte de frigo, donc basé sur les propriétés thermoélectriques d'un contact ponctuel quantique. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est: est-ce qu'on peut s'intéresser à ce genre de questions dans le cadre des atomes froids? Alors, les gaz d'atomes froids, on les connaît pour leur potentiel de simulateur quantique. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a pu utiliser les propriétés des gaz atomiques pour étudier les transitions de phase quantique. Et la question qu'on peut assez naturellement se poser, c'est: est-ce qu'on peut étendre ce potentiel de simulation aux propriétés de transport? Alors la réponse est expérimentalement oui. Il y a tout un tas de résultats sur le sujet, et notamment donc la mesure de transport de spin, donc au MIT il y a maintenant 2 ans. On peut aussi mentionner donc le transport en présence d'interactions et d'un réseau. Donc, c'est des études qui ont été réalisées à Munich l'an dernier. Et quand on parle de transport, on s'intéresse assez naturellement aux effets du désordre sur le transport, avec toutes les questions qui tournent autour de la localisation d'Anderson. Et à ce sujet, donc, un certain nombre d'études ont été menées, notamment à l'Institut d'optique et à Florence depuis... je dis ici 2008, mais en fait c'est depuis 2008, c'est des études qui ont été poursuivies depuis et qui sont encore en cours. Il y a un certain nombre d'autres résultats, et je mentionne en particulier celui-ci, qui est un travail théorique sur le transport en présence d'impuretés. Mais ces dispositifs ne sont pas celui sur lequel je vais m'apesantir, puisque celui auquel je m'intéresse, c'est celui qui a été réalisé à l'ETH, donc dans le groupe de Tillmann et Slinger. Et donc, ce qu'ils ont réussi à faire, donc Jean-Philippe vous l'a décrit dans tous les détails, mais ce qu'ils ont fait, donc, c'est réaliser l'analogue d'un dispositif de physique méso, donc le dispositif vraiment typique de 2 terminaux connectés par une région qui a certaines propriétés de conduction. Donc, dans cette première expérience, ce qu'ils ont fait, c'est observer donc la relaxation d'une différence de population à l'instant initial. Donc, ce qu'ils ont vu, c'est la décharge d'un condensateur mésoscopique à travers une résistance. Donc, c'est une vraie simulation de physique mésoscopique avec des atomes froids. Et la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est: est-ce qu'on peut utiliser ce genre de dispositif pour voir des effets de transport hors diagonaux, donc pour voir un couplage entre le transport de particules et de chaleur? Donc, on sait déjà que expérimentalement la réponse est oui, et je vais essayer d'apporter un éclairage théorique sur cette question. Donc, en présentant en rappelant rapidement le protocole expérimental et donc en décrivant la théorie qu'on a utilisée pour le comprendre, en montrant ensuite comment les prédictions théoriques se comparent aux résultats expérimentaux, et enfin en prenant un point de vue un petit peu différent et en décrivant le protocole et les résultats expérimentaux à travers la thermodynamique des machines thermiques. Donc le protocole et la théorie. Donc le protocole, c'est le suivant. Jean-Philippe vous l'a décrit dans tous les détails, encore une fois. Donc l'idée, c'est de chauffer un des réservoirs à nombre de particules constantes, donc en maintenant la connexion entre les réservoirs ouverts, en coupant cette connexion. Une fois le chauffage effectué, on rouvre le canal entre les deux réservoirs, et à partir de ce moment-là, on laisse le système évoluer, et pendant cette évolution, on mesure séparément les nombres de particules et les températures de chacun des réservoirs séparément. Donc la mesure typique, c'est la suivante. Une équilibration exponentielle des deux températures vers une température d'équilibre qui est la température moyenne entre les deux températures initiales des deux nuages. Et dans le même temps, une évolution transiente du nombre de particules. Alors cette évolution, elle va se faire du chaud vers le froid, donc ce qui est le signe d'une vraie, ce qui est la manifestation en fait de propriétés thermoélectriques qui sont essentiellement données par la physique du transport de la constriction entre les deux réservoirs. Donc c'est l'effet dominant dans ce cas-là. Donc on va maintenant essayer de comprendre pourquoi. Alors l'approche qu'on a utilisée, c'est une approche assez simple de réponse linéaire. L'idée, c'est de voir la connexion entre les deux réservoirs comme une boîte noire, plutôt un élément de circuit, qui a des propriétés de réponse linéaire. Donc cette image d'élément de circuit, elle est omniprésente en physique mésoscopique et on s'en est inspiré très largement. Donc les propriétés de réponse linéaire donnent que le courant de particules et le courant d'entropie sont reliés à la différence de potentiel chimique et à la différence de température par une matrice de coefficients de réponse linéaire grand L, qui est la suivante, et qui est symétrique puisqu'elle obéit aux relations d'Onsager. La thermodynamique vous donne que la différence de population et la différence d'entropie entre les deux réservoirs est elle aussi reliée à delta mu et delta t par une autre matrice qui contient cette fois-ci donc les coefficients thermodynamiques des réservoirs, qui est symétrique, ce qu'elle obéit aux relations de Maxwell. Ici, ce gamma, c'est le kappa alpha r qu'Antoine a utilisé dans son cours. De toute façon, je vais très rapidement abandonner la notation gamma au profit d'alpha r. La combinaison de ces deux systèmes d'équations va vous donner une équation d'évolution pour la différence de potentiel chimique et la différence de température. Maintenant, pour coller au plus près possible aux conditions expérimentales, il faut décrire l'évolution non pas de delta mu et delta t, mais plutôt de la différence de population et de la différence de température. Donc à partir de ce système-là, en travaillant encore un peu, on peut obtenir le système suivant, donc qui décrit l'évolution de la différence de population et de la différence de température entre les deux réservoirs. Ce système, ce n'est pas autre chose que, encore une fois, la décharge d'un condensateur à travers une résistance, mais cette fois-ci en incluant les propriétés de transport thermique. En particulier, cette équation contient les contributions de transport hors diagonale auxquels on s'intéresse, qui sont données par le coefficient Seebeck, alpha ici. Avant de décrire plus avant les coefficients de transport, je mentionne que cette équation contient donc une échelle de temps typique, qui est cette échelle taux zéro, qui a été décrite par Antoine et Jean-Philippe, donc qui est l'échelle de temps de relaxation pour une différence de nombre de particules, et qui n'est pas autre chose qu'un temps RC, finalement, et son expression est donnée par le rapport entre la compressibilité et la conductance du canal. Alors les différents coefficients de transport qui interviennent dans cette équation sont les suivants. Le premier, il concerne que les propriétés de la constriction, c'est le nombre de Lorentz, donc c'est le rapport entre la résistance et la résistance thermique. L'autre coefficient, c'est un coefficient, sur petit L, qui a été nommé comme ça, puisque c'est l'analogue du nombre de Lorentz, mais pour les réservoirs. Donc c'est un équivalent qu'on construit à l'aide des propriétés thermiques. Donc c'est le rapport entre la chaleur spécifique à nombre de particules constants et de la compressibilité. Et la contribution, enfin le coefficient auquel on s'intéresse, c'est ce coefficient Seebeck, qui est un coefficient Seebeck effectif, dans le sens où il va contenir des propriétés tant des réservoirs que de la constriction. Et donc il s'écrit de cette manière-là. Ici, c'est la contribution Seebeck qui vient du canal, donc c'est celle à laquelle on est intéressé la plupart du temps quand on regarde des effets thermoélectriques, donc dans des systèmes de plus de matière condensée. Et donc il y a une compétition, dans ce cas, entre cet effet Seebeck intrinsèque de la constriction et un effet de dilatation des réservoirs. Donc tant la thermodynamique que les propriétés de réponse du canal participent au transport, et ces propriétés vont même être en compétition dans le cas des effets qui nous intéressent. Alors, maintenant, on doit essayer d'être un peu plus quantitatif pour essayer de, pour faire des prédictions et essayer de comprendre ce qui se passe dans les manips. Donc on doit s'occuper tant de ce qui se passe dans la constriction que dans les réservoirs. On a simplifié le problème en traitant les deux séparément. On oublie qu'à la base, les deux font partie d'un seul et même gaz. Ce qu'on a fait, c'est décrire les réservoirs comme des gaz de Fermi piégés par un potentiel harmonique. Donc, ce sont des fermions sans interaction. C'est très similaire à un contact métallique qu'on aurait dans le cas des, dans le cas de la physique mésoscopique. Pour ce qui est de la constriction, donc, on a aussi un ingrédient de géométrie. Donc, on peut changer la géométrie donc en changeant le confinement transverse dans la constriction. Donc on peut, maintenant vous savez qu'on peut changer la géométrie quasi à volonté, donc aller quasi continuellement de une dimension à 3D. L'ingrédient le plus important dans ce cas-là, c'est le régime de conduction. Donc on peut changer aussi à volonté donc, en allant d'un régime balistique ou diffusif. Et dans le cas du, régime balistique, donc ces coefficients de réponse sont directement donnés par, par les formules de Landauer-Bütikofer. Un petit peu plus précisément, donc ces relations donnent tant les coefficients thermodynamiques qui ont été décrits par Antoine dans son cours du jour que les coefficients de transport. Donc vous voyez que les deux types d'expressions sont très analogues. Les coefficients thermodynamiques sont donnés, encore une fois, par les moments de la densité d'état fois la dérivée de la fonction de Fermi. Et les coefficients de transport, eux, ils vont être proportionnels au moment de ce qu'on appelle une fonction de transport multipliée par la dérivée de la fonction de Fermi. Donc cette fonction de transport, elle est analogue au... elle contient les propriétés de transparence, si vous voulez, de la constriction. Et cette fonction de transport, on peut la comprendre grossièrement comme le produit de la densité d'état dans le canal, fois la vitesse des porteurs, fois leur transmission, donc la probabilité qu'ils puissent être transférés d'un réservoir à l'autre. Dans le cadre de la physique mésoscopique, finalement, cette fonction de transport, ce n'est pas autre chose que la conductance différentielle, donc la dérivée du courant par rapport au biais de potentiel. Et un petit peu plus précisément, donc cette fonction de transport, elle a cette expression-là, et en particulier, donc elle contient ici une transparence qui, elle, va tenir compte des propriétés de transport, donc balistiques ou diffusifs, dans le cas qui nous intéresse. Ici, on reste avec des fermions sans interaction. Et elle contient aussi une condition, ici, de conservation de l'énergie, qui vous dit qu'une particule qui rentre avec une certaine énergie, epsilon, dans le canal, va distribuer son énergie entre le transport avec à une certaine vitesse et la population d'un des modes transverses. Et dans les deux régimes limites, balistique ou diffusif, donc dans le cas balistique, la transmission, la probabilité donc de passer d'un réservoir à l'autre est égale à 1, et on peut avoir une expression de la fonction de transport finalement comme le produit des modes accessibles pour le transport dans une direction, ici la direction X, une des directions transverses, fois le nombre de modes accessibles dans l'autre direction transverse, ce qui donne aussi l'interprétation de la fonction de transport dans ce cas-là comme le nombre de modes qui sont accessibles à la conduction dans pour une particule qui a une énergie epsilon. Donc c'est ce qui est représenté ici en bleu pour des fréquences typiques de, pour des fréquences typiques de confinement. Donc les marches d'escalier ici ne sont pas autre chose que l'ouverture successive des modes accessibles au transport. Et on voit dans la zone grisée ici, qui est la zone typique de potentiel chimique dans laquelle sont réalisées les manips qu'on cherche à décrire, que le nombre de modes qui sont accessibles est relativement élevé. Mais même si ce nombre de modes reste relativement élevé, on verra que dans le cas balistique, il faut ne pas oublier la contribution de point zéro qui est finalement le niveau fondamental des pièges harmoniques dans la direction transverse. Elle a son importance dans le cas balistique. Dans le cas diffusif, on peut écrire en résolvant l'équation de Boltzmann, donc en faisant un certain nombre d'approximations, donc finalement dans un modèle de Drude, on se retrouve avec une transparence effective qui est le rapport entre le libre parcours moyen et la taille du système. Et en calculant cette somme avec une transparence qui a cette expression-là, on obtient une approximation pour l'expression de la fonction de transport qui est la suivante, donc qui donne une dépendance en l'énergie de la particule incidente qui est plus élevée que dans le cas balistique, donc c'est ce qui est représenté ici. Donc je précise ici que c'est la fonction de transport adimensionnée, donc elle ne tient pas compte de tous les préfacteurs. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que la dépendance en énergie de la fonction de transport dans le cas diffusif est plus élevé que dans le cas balistique. Donc, c'est ce qui va avoir son importance dans le calcul des propriétés thermoélectriques. Donc, on peut aller encore un petit peu plus loin et utiliser des approximations dans des régimes de basse température pour les différentes contributions au pouvoir thermoélectrique du système. Donc on sait qu'il y a deux contributions. L'une qui vient du canal, c'est la contribution habituelle dans le cas des effets thermoélectriques, et une contribution qui vient des réservoirs. Pour ces deux expressions, on peut appliquer la formule de Mott-Cutler, qui n'est pas autre chose qu'un développement de Sommerfeld, et qui va donner que la contribution du canal s'écrit comme un terme proportionnel à la température multiplié par la dérivée logarithmique de la fonction de transport, et pour la contribution réservoir, le même terme linéaire en la température fois la dérivée log, cette fois-ci de la densité d'état. Donc ça permet de souligner encore une fois les rôles équivalents de la densité d'état et de la fonction de transport dans ce problème-là. Le cas des réservoirs est assez vite plié, puisqu'on dit que les réservoirs sont des gaz de fermions sans interaction, donc piégés dans un potentiel harmonique, enfin, ou semi-harmonique dans la direction du transport, mais ça ne change pas la dépendance en énergie de la densité d'état, ce qui est ce à quoi on s'intéresse en fait ici, donc, qui donne ce résultat pour la contribution réservoir. Dans le cas de la constriction, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, dans le cas diffusif, on a vu au transparent précédent que la fonction de transport se comporte comme l'énergie à la puissance 5/5, donc qui donne ce résultat-là pour la contribution de la constriction. Donc dans le cas diffusif, c'est très clair, l'effet du canal est dominant. Par contre, dans le cas balistique, la contribution dominante dans l'expression de la fonction de transport, c'est une contribution quadratique, donc qui donne exactement le même résultat que pour le cas du réservoir. Donc dans ce cas-là, on voit qu'on va avoir besoin des corrections, donc qui vont venir notamment de l'énergie de point zéro, et a priori, disons, notre intuition donnerait qu'on s'attendrait à des effets plus faibles. Et c'est ce qu'on peut déjà pressentir ici. Donc ça, c'est le coefficient Seebeck total, donc la différence entre alpha constriction moins alpha réservoir. Donc ici, c'est une quantité positive. Et on voit que dans le régime de température typique dans lequel sont menées les expériences, donc enfin, ici, j'ai vu un peu large entre 0,1 et 0,5 TF, ici on voit l'expression le comportement du Seebeck dans le cas diffusif pour des paramètres typiques en ce qui concerne le confinement, et on voit donc que cette dépendance est bien plus forte dans le cas diffusif que dans le cas balistique. Et l'autre chose, c'est que en changeant, on a déjà l'intuition qu'en changeant donc le confinement dans le cas balistique, on peut arriver à changer les propriétés thermoélectrique. Donc en confinant un petit peu plus fort, on augmente légèrement le coefficient Seebeck. Mais que l'augmentation est bien plus forte quand on transite à confinement constant d'un régime balistique à un régime diffusif. Oui, c'est en unité de KB. Oui. Maintenant, donc, on peut essayer de voir comment ces prédictions vont se comparer aux résultats expérimentaux qui ont été obtenus à l'ETH. Alors, dans le cas balistique, c'est pas autre chose que les graphes que Jean-Philippe vous a montré tout à l'heure. La première chose, c'est que ici, c'est la différence de population relative, donc normalisée au nombre total de particules. On voit que cette différence relative est de l'ordre de 4%, donc les effets, comme attendu, sont relativement faibles. L'autre chose, c'est que les prédictions théoriques ajustent relativement bien les résultats expérimentaux. Et on peut aller un petit peu plus loin, donc essayer de voir si on peut donc avoir des prédictions, donc comparer prédictions et résultats pour des mesures de résistance, ou autrement dit pour des mesures de constantes typiques de relaxation. C'est ce qu'on voit ici. Donc en utilisant la formule de Landauer-Bütiker, qui est dans ce cas-là sans paramètres ajustables, modulo la connaissance des températures et des fréquences de piège. Donc vous voyez ici en gris les mesures de constantes caractéristiques en fonction de la géométrie, donc du confinement dans ce cas-là, et donc en noir une prédiction théorique qui donne une évolution linéaire qui est bien, qui aide bien à comprendre les résultats expérimentaux. Et encore une fois, une comparaison entre théorie et expérience, cette fois-ci pour la réponse thermoélectrique, donc qui est ce que Jean-Philippe vous a présenté tout à l'heure, qui est l'effet maximal ici normalisé au biais de température initiale. Donc l'accord est relativement bon dans ce cas-là et reproduit, et on arrive relativement bien à reproduire le comportement du système quand on change le paramètre. Qui est le seul paramètre accessible dans le régime balistique, finalement, qui est la fréquence du piège. Alors, on peut aller un petit peu plus loin dans le même genre d'idée et se poser la question de ce qui se passerait donc, si on jouait un petit peu plus avec les fréquences de piégeage et finalement jouer sur la géométrie de la constriction dans le régime balistique, c'est pas autre chose que de faire ce qu'on fait Hicks et Dresselhaus il y a maintenant une vingtaine d'années pour les nanostructures, donc c'est de faire de la nanostructuration. Alors si on essaye de faire ça dans le régime de température dans lequel on travaille, dans lequel le travail a été fait jusque-là, donc T sur TF de l'ordre de 30% de la température de Fermi, ce qu'on voit, c'est quelque chose d'assez monotone finalement, c'est que le coefficient Seebeck va certes augmenter, il y a juste une augmentation linéaire du coefficient Seebeck dans ce régime de température. Mais par contre, si on descend à des régimes de température donc de l'ordre de 10% de la température de Fermi, ce qu'on peut arriver à voir, c'est finalement les contributions successives à mesure qu'on change les fréquences de piège, donc des différents modes de conduction à la thermoélectricité, et ici, ça va donner lieu à des oscillations qui sont des oscillations entre des régions où, ici en orange, où l'effet thermoélectrique est dominé par l'effet thermodynamique des réservoirs, et des régions ici en bleu, où les effets thermoélectriques sont dominés par les effets du canal. Donc c'est encore une fois très similaire aux idées de nanostructuration qui ont été proposées en physique méso il y a maintenant près de 20 ans.
Mais j'ajouterais même que c'est une chance assez unique pour pouvoir finalement les observer, parce que les effets de nanostructuration...
Ils ont surtout été utiles pour tuer les phonons, non ?
C'est ça. Ouais. Ils sont quand même pas mal gâchés par l'augmentation des coefficients élastiques, donc on peut se débarrasser ici.
Effectivement. Alors maintenant, on sait ce qui se passe dans le cas balistique. Encore mieux, on arrive même a priori à le comprendre. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut augmenter encore le pouvoir thermoélectrique du système ? Alors, vous savez déjà que la réponse est oui, et pour ce faire, on utilise l'autre bouton qui est la possibilité de générer du désordre de manière contrôlée. Donc, du point de vue expérimental, ça se fait donc en utilisant les propriétés d'un potentiel de Speckle. Et du point de vue théorique, ce qu'on a fait, c'est une approche phénoménologique qui permet de décrire la transition entre un régime balistique et un régime diffusif en utilisant une transparence effective qui a cette expression-là. Donc, où petit l, c'est le libre parcours moyen pour une particule qui a l'énergie epsilon. Donc l'expression de ce libre parcours moyen, c'est la suivante, c'est le produit du temps typique de diffusion fois la vitesse d'une particule à l'énergie epsilon. Le grand L ici, c'est la taille du canal. Dans une limite où le désordre est faible, voire même absent, donc on s'attend à ce que le libre parcours moyen soit grand devant la taille du système. Donc c'est donc petit L grand devant grand L. Donc dans ce cas-là, la transparence va tendre vers 1. C'est un transport de type balistique. En revanche, dans le cas où le désordre est plus important, donc petit L, petit cette fois-ci devant grand L, cette fois-ci, on retrouve une expression d'une transparence effective qui serait donnée par une solution de l'équation de Boltzmann, qui est le rapport entre le libre parcours moyen et la taille du système. L'autre approximation qu'on fait, c'est de dire que ce temps typique entre deux collisions, il est indépendant de l'énergie de la particule. Donc c'est une approximation qui est faite dans le cadre du modèle de Drud. Et ce que ça va avoir comme incidence, c'est a priori que dans le cas d'un transport diffusif, puisque le Seebeck est le rapport de deux coefficients de réponse linéaire, a priori, on s'attend à ce que, dans le régime diffusif, les effets thermoélectriques soient indépendants de la force du désordre, donc qui est représentée par la hauteur typique du potentiel de Speckle. Alors, ce qu'on voit, donc, c'est comme ce que vous a décrit Jean-Philippe, c'est qu'à mesure qu'on augmente la force, donc l'amplitude moyenne du potentiel de Speckle, donc les effets thermoélectriques augmentent même fortement, donc un facteur 3. Dans le même temps, donc on a une augmentation monotone de la résistance du canal, qui est représentée encore une fois par cette constante de temps. Et si on s'intéresse dans le même temps à l'évolution de la réponse thermoélectrique, on voit une augmentation et à fort potentiel de désordre, une saturation. Donc on interprète comme le signe que cette hypothèse de temps de diffusion indépendant de l'énergie est valide. Ça nous dit aussi que le coefficient Seebeck contient des informations qui sont indépendantes de la conductivité, donc dans le sens qu'en mesurant le coefficient Seebeck et la conductivité, on a accès à des informations complémentaires finalement sur le système. Et pour finir sur cette hypothèse de temps de scattering indépendant de l'énergie, on peut regarder, chercher un régime universel. Donc, pour ce faire, on adimensionne le temps typique de l'expérience par la résistance et on regarde la réponse thermoélectrique. Donc, c'est cette courbe de différence de population donc normalisée au biais initial et on voit que dans le régime où le potentiel de Speckle est suffisamment fort, toutes les courbes expérimentales vont finalement s'écraser sur une même courbe qui est bien reproduite par les prédictions théoriques dans ce cas-là. Donc ce régime universel est le signe d'un temps de scattering indépendant de l'énergie. Et finalement, donc pour terminer sur la comparaison théorie-expérience, je reviens sur ce graphe qui représente donc la réponse thermoélectrique en fonction de la résistance dans le cas balistique et dans le cas diffusif. Donc on arrive à comprendre que changer la géométrie est moins efficace que changer le régime de conduction pour augmenter les effets thermoélectriques et encore une fois que la résistance et le pouvoir thermoélectrique sont des informations complémentaires sur un système donné. Donc je vais terminer en présentant donc comment on peut voir ce système à travers la thermodynamique des machines thermiques et des machines thermiques thermoélectriques. Donc ce qu'on a fait, c'est finalement créer une source chaude et une source froide, donc en chauffant un des réservoirs. Et les effets thermoélectriques font en sorte que les particules passent de la source chaude qui a le potentiel chimique le plus bas, à la source froide qui a le potentiel chimique le plus élevé. Donc les effets thermoélectriques font d'une certaine manière passer la barrière de potentiel chimique aux particules, donc ça veut dire qu'il y a du travail qui a été produit. Donc ce que le système a réalisé, enfin surtout le canal dans ce cas-là, c'est en fait de convertir de la chaleur, donc qui est le chauffage initial, en du travail électrochimique finalement. Enfin, chimique dans ce cas-là, puisque on travaille avec des particules non chargées. Et on peut regarder comment le... donc encore une fois, très dans l'esprit de la thermodynamique des machines thermiques, on peut se préoccuper de la trajectoire du système durant son évolution. Donc on a ici les deux points de départ, donc pour la trajectoire du réservoir froid ici en bleu et du réservoir chaud ici en rouge. Donc le réservoir froid, les réservoirs chauds partent avec le même nombre de particules. Ils évoluent et ils terminent au même nombre de particules et avec un potentiel chimique qui est le même comme demandé par la thermodynamique. Et pendant ce temps-là, donc ils suivent chacun leur propre trajectoire et l'air entouré par cette trajectoire vous donne la quantité de travail qui a été générée par le système. Alors la question maintenant qu'on a introduit cette perspective, la question qui se pose, c'est quelle va être l'efficacité de cette conversion entre chaleur et travail électrochimique. Alors, Jean-Philippe vous l'a introduit rapidement tout à l'heure, donc vous avez déjà un certain nombre d'éléments. Ce que j'ajoute, c'est que ici, on travaille encore une fois dans un régime qui n'est pas permanent. Donc l'absence de régime d'essai fait qu'on doit vraiment se préoccuper de comparer le travail et la chaleur, donc des énergies et pas des puissances, alors qu'on pourrait le faire dans le cas d'essai. Et on peut aller, donc on peut travailler un peu pour obtenir l'expression de l'efficacité relative comme ce rapport-là, donc qui est finalement donné par les idées de Donzager, donc entre forces qui sont les donc produits de forces et flux, donc les forces étant la différence de potentiel chimique et la différence de température, et les flux, le nombre de particules et le courant de particules et le courant d'entropie. Et on connaît les équations qui donnent l'évolution du système. Donc c'est le système de deux équations que j'ai donné tout à l'heure. Et la solution à ces équations de transport permet de travailler encore sur cette expression et d'obtenir l'expression de l'efficacité relative en termes des coefficients de transport, donc ceux que j'ai décrits tout à l'heure, petit l, grand L et alpha, avec une contribution supplémentaire qui vient du coefficient Seebeck des réservoirs. Donc c'est encore une fois la trace qu'on ne peut pas oublier, la physique des réservoirs dans ce cas-là. Donc comment ces expressions vont se comparer aux résultats expérimentaux, et est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la puissance finalement qui a été produite par cette petite machine thermodynamique. Alors, pour ce qui est de l'efficacité, donc encore une fois relative à un processus adiabatique, l'efficacité a tendance à s'améliorer à mesure que le confinement grandit. Donc c'est pas très net, mais par contre c'est plus net que l'efficacité est améliorée quand on rend le potentiel de speckle plus fort, donc quand on ralentit encore une fois la dynamique, donc on rend l'évolution de plus en plus lente, donc de plus en plus proche d'un processus adiabatique, donc c'est assez clair. Par contre, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, pour rester dans l'esprit d'une machine thermoélectrique, on peut essayer d'extraire donc cette quantité qui représente la force des effets thermoélectriques pour le canal, donc qui va caractériser le canal en tant que matériau thermoélectrique, qui est la figure de mérite sans dimension, donc ce ZT, qui s'écrit, encore une fois, assez simplement comme le rapport du Seebeck au carré divisé par le nombre de Lorentz. Et ce qu'on trouve, c'est que déjà dans le cas balistique, cette figure de mérite, elle est de l'ordre de 1.5, 1.8, et qu'elle a tendance à vaguement augmenter en fonction du confinement. Par contre, c'est beaucoup plus net dans le cas diffusif. En augmentant la force du speckle, on obtient une figure de mérite qui augmente à mesure que le speckle augmente, et on obtient des valeurs qui sont supérieures à 2, qui sont donc relativement élevés, qui sont quasi inaccessibles avec les matériaux standards. Bon, dans ce cas-là, c'est un petit peu triché dans la mesure où on peut être à relativement haute température, on est à un tiers de la température de Fermi et on n'a rien fait fondre finalement, et on n'a aucune contribution des phonons dans les processus de transport, donc qui aurait tendance à augmenter la conductivité thermique et donc à diminuer fortement cette figure de mérite. Je termine sur ces remarques en représentant un graphe qui est assez typique de la physique des matériaux thermoélectriques, donc qui représente l'efficacité relative en fonction de la puissance adimensionnée à la puissance maximale. Donc on voit, l'information que je tire surtout de ce graphe, c'est qu'à partir d'un certain moment, même quand la figure de mérite thermoélectrique devient de l'ordre de 1, c'est plus la même chose de chercher à optimiser la puissance produite par le matériau thermoélectrique et l'efficacité. Donc c'est ce qu'on peut voir. On le voit ici, quand ZT est égal à 2.4, ici c'est la courbe jaune. Donc on voit que c'est pas la même chose d'être ici à puissance maximale ou à efficacité maximale. Donc c'est une chose différente d'essayer d'optimiser la puissance et d'essayer d'optimiser l'efficacité de la conversion thermoélectrique. Et c'est quelque chose qu'on voit ici aussi dans ce système-là, donc avec en plus la contribution de la physique des réservoirs, qui n'était pas contenue dans le graphe que je viens de montrer. Mais donc quand on regarde la puissance typique, donc la puissance typique produite par cycle, on regarde surtout ce graphe-là, on voit clairement qu'il y a un optimum qui est donné, qui n'est pas celui qui donnerait donc l'efficacité maximale, mais qui est plutôt localisé pour des valeurs intermédiaires du speckle. C'est quelque chose qu'on comprend relativement bien, puisque a priori augmenter la force du confinement ou du speckle, ça ralentit la dynamique du système, donc ça augmente la résistance, donc ça augmente ce temps typique, le temps typique d'un cycle, donc ça va avoir tendance à diminuer la puissance. Et c'est ce qu'on voit en tout cas très clairement dans le cas du speckle.
Mais ça nous rapproche de l'efficacité de Carnot.
Mais ça nous rapproche de l'efficacité de Carnot, qui est stricto sensu atteignable uniquement pour un processus extrêmement lent. Quoi. Ouais. Alors, en conclusion, ce qu'on a réussi à voir et à décrire, c'est finalement un couplage entre le transport de chaleur et le transport de particules dans le cas des atomes froids. Dans ce cadre-là, il faut bien garder à l'esprit que les propriétés de transport sont issues d'une combinaison et voire même d'une compétition entre les propriétés thermodynamiques des réservoirs et les propriétés de réponse du canal entre les deux. On peut utiliser la force des expériences des atomes froids, donc de pouvoir jouer quasi à volonté sur la géométrie, le désordre, voire même les interactions. Donc le contrôle sur ces effets thermoélectriques peut être fait via la géométrie, donc c'est des considérations qui sont similaires à celles sur la nanostructuration, ou en changeant le régime de transport, donc transiter d'une conduction balistique à une conduction diffusive. Tout ça pour réaliser un élément thermoélectrique, donc là, la constriction entre les deux réservoirs qui a une figure de mérite relativement élevée, en tout cas pour les physiciens des matériaux. Et finalement, cette étude-là, ce n'est pas autre chose que l'étude de transport, de propriétés de transport à haute température en l'absence de phonons, donc ce qui ouvre des perspectives pour l'étude de situations potentiellement plus compliquées, toujours en l'absence de phonons. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à regarder par la suite? Donc, une possibilité, ce serait de rentrer dans le régime superfluide, donc d'essayer de voir des effets donc, comme ceux que Antoine vient de décrire, donc des effets thermomécaniques, des analogues de l'effet Fontaine. Il ne vous a pas échappé que j'ai décrit surtout des fermions sans interaction ici. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer si on augmente si maintenant les interactions entrent en jeu? Donc, a priori, on pourrait s'attendre encore une amélioration du pouvoir thermoélectrique, puisqu'en introduisant les interactions, on augmente l'asymétrie particule-trou, donc qui est à l'origine du pouvoir thermoélectrique. Et on pourrait aussi se poser donc la question maintenant de combiner les effets des interactions et d'un réseau. Voilà. Merci de votre attention.